écoutez Radio J, il est 21h.
Radio J, le 6-9, il est la fée radio.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Radio J.
C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Raffal. Radio J.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous médical C'est bon pour la santé, bienvenue sur Radio J. Bonjour, bienvenue pour une émission pleine d'amour. Bonjour Serge Raffal.
Bonjour Nicolas.
Ouais, parce que c'est un peu, on va parler du, ouais. un peu du contraire.
L'amour n'est pas loin de la haine.
Et oui, et voilà, on va en parler avec le docteur Gérard Apfeldorfer, un fidèle de l'émission. Bonjour.
Oui, bonjour.
On a le plaisir de vous recevoir, je disais ami fidèle de notre rendez-vous, puisque vous êtes Gérard Apfeldorfer, psychiatre, psychothérapeute, membre de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive. Et vous nous proposez aujourd'hui, eh bien, votre petit dernier, un ouvrage d'une actualité brûlante. Pourquoi tant de haine ? Psychologie du ressentiment, de la colère, de la violence. Paru chez Odile Jacob, on est ravis de vous accueillir. C'est le grand entretien avec Serge.
Radio J.
C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Raffal.
Docteur Apfeldorfer, bonjour.
Oui, bonjour.
Je suis heureux de vous retrouver, de vous accueillir à nouveau. Alors, je vous ai reçu régulièrement dans notre magazine pour évoquer le surpoids et l'obésité qui ont explosé au point de constituer un problème préoccupant de santé publique, puisqu'il touche à présent la moitié de la population française. Vous avez créé en 1998, avec le docteur Jean-Philippe Zermati, nutritionniste et psychothérapeute, le GROS, G-R-O-S, acronyme de Groupe de Réflexion sur l'Obésité et le Surpoids, une association de professionnels de la nutrition qui réfléchissent aux difficultés, disons-le, aux échecs fréquents à moyen et long terme des régimes et proposent des alternatives dont une approche bio-psycho-sensorielle plus efficiente. Vous êtes d'ailleurs toujours au conseil scientifique et président d'honneur de cette association. Mais nous vous recevons aujourd'hui pour un tout autre sujet d'une actualité vraiment brûlante, la violence de la société avec en filigrane la vague d'antisémitisme depuis le 7 octobre. L'épidémie de meurtres ou d'assassinats en série commis par des enfants ou des adolescents. Citons de façon non limitative Mélanie la semaine dernière à Nogent en Haute-Marne, Benoît à Dax le soir de la victoire du PSG en Ligue des Champions, Elias à Paris dans le 14e arrondissement après un entraînement de foot, la guerre contre la République islamique d'Iran depuis jeudi. Derrière et à l'origine de cette violence, la haine à laquelle vous consacrez un ouvrage complet et salutaire, elle constitue pour le psychiatre que vous êtes une urgence absolue. Vous allez nous aider à la comprendre et nous expliquer les solutions qu'on peut lui opposer pour réduire cette violence dont elle est en grande partie responsable.
Bien, merci de me recevoir. Effectivement, je me suis intéressé à ce problème de la haine. Qui aujourd'hui est vraiment partout, en définitive, qui a cru dans des proportions assez hallucinantes. Et donc, c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai voulu en savoir plus sur le sujet.
Mais vous nous expliquez, c'est difficile parce que vous dites la haine échappe à toute définition et même à toute description, qu'elle soit proposée par un psychiatre, un psychologue ou même les philosophes.
Effectivement, et c'est ça qui est assez extraordinaire, il n'y a pas de définition univoque de la haine. Personne n'est arrivé à se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'était que la haine. Bon, et moi, quand j'ai découvert finalement, c'est cette impossibilité de dire ce qu'était la haine pour donner une définition, le fait qu'il n'y ait pas de définition pose quand même des problèmes, parce qu'à partir du moment où on veut, par exemple, interdire la haine sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'est-ce qu'on interdit, il faut savoir de quoi on parle. Il faut qu'on dise à un juge, voilà, la haine c'est ça, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Et bien ça, on est incapable de le faire. Alors ça m'a amené à m'apercevoir que, en définitive, la haine était dans une sorte de continuum, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des petites haines, et il faut bien dire que nous sommes tous capables de haïr dans des petites proportions, je dirais. Et puis, il y a donc c'est des haines banales, en quelque sorte. Donc, un petit peu, j'en parle dans mon livre, le ressentiment, la jalousie, l'envie, des choses comme ça, si vous voulez, qui sont des choses, somme toute, banales, ou des réactions à l'injustice, l'indignation, et puis des haines majeures, qui sont celles qui donnent des génocides, le terrorisme, etc. Et je me suis aperçu, j'ai trouvé une psychiatre américaine qui avait aussi ce point de vue de ce continuum et qui expliquait que le premier stade de la haine, finalement, c'était quand vous détourniez les yeux, par exemple, vous voyez un mendiant dans la rue et vous détourniez les yeux. Et le fait de ne pas reconnaître sa misère, en définitive, de se fermer à cette misère, ça, c'était déjà de la haine.
Alors, vous l'expliquez, vous dites, c'est en fait la haine du sentiment qu'on éprouve, de la gêne que nous éprouvons, nous.
Oui, c'est ça. Et donc, si vous voulez, c'est l'effort que nous faisons pour ne pas ressentir, pour ne pas avoir d'empathie. Et ça, le fait qu'on se ferme de cette façon-là, on peut le considérer comme de la haine. Et d'ailleurs, ça a été vérifié. Alors ça, c'était le professeur Susan Opotoff, une psychiatre sociale aux États-Unis. Et ça a été vérifié sur un plan neurophysiologique, c'est-à-dire qu'il y a eu des travaux pour finalement montrer si on pouvait identifier la haine sur un plan neurophysiologique. Ça, c'est
Là, vous allez trop vite dans notre exposé. Effectivement, on va en parler, on va profiter de votre présence pour en parler, mais je voudrais que vous nous expliquiez, en fait, et vous le dites très bien dans votre ouvrage, la haine n'est pas un mal venu de l'extérieur ou une folie qui sait saisir certains d'entre nous, elle est en fait en nous.
Et tout à fait. Nous sommes constitués, en fait, nous avons deux forces en nous. Nous avons une force qu'on pourrait appeler... Moi, que j'ai appelé la force d'attachement. Hein, vous vous attachez à votre mère, qui s'attache à vous, et à votre famille, à votre clan, à votre nation, et vous vous attachez aussi à des idées, à des croyances, à des religions qui font partie de vous, qui vous définissent, en définitive. Quand on veut se définir vis-à-vis des autres, généralement, on récite la suite de ces attachements. Et ça nous définit. Mais en fait, on se définit aussi par la haine, c'est-à-dire par le rejet de ce que l'on ne veut pas en soi, de ce que l'on veut repousser, de ce que l'on ne veut pas identifier comme quelque chose qu'on pourrait appeler nous. Si bien qu'on divise le monde en nous et puis eux. Il y a les amis, il y a les ennemis. Et finalement, ces deux forces d'attachement et d'exclusion sont complémentaires. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Elles sont pas antinomiques, c'est pas l'un qui est le contraire de l'autre. C'est que nous avons besoin des deux pour pouvoir nous constituer.
Vous dites, vous posez la question de la haine est-elle utile dans nos sociétés? Vous dites qu'elle était indispensable autrefois, quand il s'agissait de se battre pour des ressources limitées. Elle est contre-productive maintenant.
Oui, alors pour des ressources limitées, il faut même remonter aux travaux de la psychologie évolutionniste. Par exemple, Jane Goodall, qui était une éthologue qui s'est beaucoup intéressée aux chimpanzés.
En Tanzanie, c'est ça.
En Tanzanie, oui. Et s'est rendu compte que les groupes de chimpanzés se faisaient la guerre. C'était quelque chose de tout à fait nouveau, ça. C'était les années 70-80. Et à l'époque, on considérait que les animaux étaient paisibles, étaient innocents, et que s'il y avait des violences, c'était des violences ponctuelles, par exemple pour chez les mâles, pour pouvoir conquérir une femelle ou des choses comme ça. Et là, Jane Goodall nous explique que des groupes de chimpanzés peuvent faire la guerre et sciemment vont tuer des groupes de vont
avec
tuer
des
chimpanzés
avec une extrême violence, vous dites.
Avec une violence tout à fait extrême, vont tuer des chimpanzés d'un autre groupe, finalement pour l'affaiblir, pour l'éradiquer et pour s'emparer de ces territoires. Et donc ça a été expliqué finalement, un petit peu comme par les psychologues évolutionnistes, comme, si vous voulez, la permission de mieux disséminer ces gènes. On a plus de territoire, on a plus de richesses, on a plus d'alimentation, et donc le groupe peut se développer, et les gènes peuvent se développer.
elle croit pas d'ailleurs à ce que ce qu'elle voit ou à vos expériences qu'elle fait. Vous la racontez, vous dites, elle dit non, les singes ne comprennent pas la douleur et la souffrance qu'ils infligent.
C'est amusant, c'est cette reculade qu'elle a fait alors qu'elle venait juste de démontrer le contraire. Elle a fait une grande reculade et pour expliquer que non, les singes étaient gentils. Hein. Mais il y a aussi d'autres descriptions, en particulier d'un autre éthologue, Franz De Waal, qui lui a plutôt, elle a travaillé en Tanzanie sur des groupes de singes en milieu ouvert, et Franz De Waal a plutôt travaillé dans des zoos en Hollande, ou qui étaient aménagés comme des territoires tout à fait libres pour les bandes de chimpanzés, et il a pu analyser les violences qui se déroulaient, en particulier quand dans un groupe de chimpanzés, le mâle dominant était vieillissant, donc il avait moins de force, et à ce moment-là, les jeunes mâles se battaient pour prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, il a montré toutes les violences qui pouvaient avoir lieu, en particulier des violences tout à fait surprenantes, c'est-à-dire tuer le vieux singe, le démembrer, lui arracher les testicules, des choses comme ça, si vous voulez. Alors, on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête, les chimpanzés, si vous voulez. Dire, est-ce qu'ils ressentent de la haine ? Nous sommes bien incapables de le dire. Mais en tout cas, leur comportement...
Ils sont capables de gestes très violents.
Leur comportement, il fait penser.
La haine, alors, masculine, féminine, vous dites, elle est aussi fréquente dans les deux sexes, mais elle est différente biologiquement et culturellement.
Oui.
C'est un chapitre important de votre ouvrage.
Effectivement, c'est un chapitre que j'ai d'ailleurs eu un peu de mal à écrire, à vrai dire. Dans l'ambiance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, du féminisme actuel, si vous voulez. Donc il fallait quand même que je fasse attention à ce que je racontais. Mais bon, si vous voulez, les travaux sont là, qui montrent en définitive que les femmes haïssent autant que les hommes. On a pu faire des statistiques là-dessus, mais ne s'y prennent pas de la même manière.
Une violence indirecte, dites-vous.
Voilà. Les hommes, c'est plutôt la violence directe. Les hommes sont des âmes simples, si vous voulez. Quand on veut montrer sa haine à quelqu'un...
On crie, on menace, on se bagarre.
Voilà, c'est ça. Et les femmes, non, les femmes agissent à un niveau social. Il faut dire que les femmes, d'une façon générale, sont beaucoup plus habiles sur le plan relationnel, sur le plan social... ont une capacité à manipuler les mots, le langage, qui est plus sophistiqué et plus précise que les hommes, et s'en sert généralement cette violence indirecte pour attaquer les hommes et les mâles, on pourrait dire, parce qu'on repère là aussi les mêmes choses dans les groupes de chimpanzés, où les mâles, ou les femelles, par exemple, quand elles trouvent que le mâle dominant est brutal, n'est pas satisfaisant, ne les satisfait pas, eh bien, elle s'allie finalement pour le détruire et favoriser un autre mâle qui prendrait sa place. Donc, elles savent aussi manipuler de cette façon-là pour obtenir ce qu'elles veulent. Donc ça, cette violence indirecte qui est de détruire quelqu'un sur le plan social, nous l'avons vu justement avec le phénomène MeToo. Hein. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce qui s'est passé avec le phénomène MeToo, c'est que la violence, la haine féminine s'est transformée. Si vous voulez, quand une femme, par exemple, se fait violer, quelles sont ses ressources? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut évidemment aller mal, développer un syndrome de stress post-traumatique, mais si elle veut combattre son agresseur, eh bien, elle a le choix entre quoi ? Elle a le choix entre ce qu'on peut appeler...
Le bannissement ou la justice, vous dites.
Voilà, c'est ça. La justice, ce qu'on appelle la justice adversariale. C'est-à-dire que c'est notre justice à nous, si vous voulez, en Occident. Eh bien, dans cette justice-là, on s'occupe de savoir... On va s'intéresser essentiellement au présumé coupable. Le présumé violeur ou le présumé meurtrier, eh bien, on va essayer de comprendre ce qui l'a amené dans cette situation-là, quelles sont ses motivations, pour pouvoir caractériser son crime et le punir en conséquence. Et cette façon-là de s'intéresser beaucoup plus finalement aux meurtriers ou finalement aux violeurs que à la victime, eh bien fait que cette victime est juste un témoin en définitive. Elle est là comme témoin. Et après, on s'étonne que beaucoup de femmes n'aillent pas en justice, alors que en fait, la justice constitue finalement un second traumatisme. Il faut pouvoir, devant la justice, verbaliser tout ce qui s'est passé, le revivre une autre fois, encore et encore. Parce que y a toutes les interviews, le jugement, souvent un deuxième jugement, etc. C'est très dur.
Et vous dites qu'il y a une méthode qui est une méthode plus rapide, qui est celle adoptée là, depuis MeToo, c'est le bannissement ou la cancellisation, la cancel culture.
Le système MeToo était finalement un raccourci merveilleux pour pouvoir punir le coupable qu'on connaissait et le bannir de la société.
Une mise à mort sociale.
On peut dire que c'était dans un certain nombre de cas, ça a été une mise à mort sociale, c'est-à-dire que la personne ne s'en est jamais relevée. Elle avait perdu sa place dans la société, elle avait perdu son travail, elle avait perdu généralement son couple aussi et ses enfants, elle avait quasiment tout perdu. Donc c'était quand même une façon de procéder tout à fait hors justice, parce que là on ne s'occupe absolument pas. Ce qu'il faut bien comprendre dans le système, dans le phénomène MeToo, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec la justice. Ça a à voir avec un système de bouc émissaire, en définitive. On a nommé un bouc émissaire, et ce bouc émissaire a été détruit. Est-ce que ce bouc émissaire était coupable ou pas, eh bien ça, finalement, c'est pas l'élément le plus intéressant pour les personnes qui, finalement, le détruisent. Ce qui, au contraire, ce qui est le plus intéressant, c'est désigner cette personne-là comme bouc émissaire permet au groupe de resserrer les liens du groupe et de se rendre plus fort.
On accuse, Dr. Appeldorfer, la haine, les réseaux sociaux d'être responsables de la haine en ligne. Vous dites, Internet n'a pas inventé la haine, il l'a juste démocratisée.
Oui, tout à fait. La haine en ligne, c'est quelque chose qui est très intéressant, si vous voulez. Ça devient facile, finalement, de dire du mal des gens devant un grand public. Autrefois, on pouvait simplement au café du commerce ou entre amis dire du mal d'un certain nombre de personnes que l'on n'aimait pas développer son opinion, etc. Ou essayer de lui créer une mauvaise réputation. Mais généralement, ça n'allait pas très loin. Alors qu'avec les réseaux sociaux, la mauvaise réputation prend une ampleur tout à fait inédite. Le système est le suivant. Vous avez des personnes qui sont des individus souvent assez fragiles, qui ont eu du mal à se construire, qui ont eu des attachements fragiles dans leur enfance pour différentes raisons qu'on pourra peut-être développer après, et qui n'arrivent à se construire elles-mêmes qu'autour de la haine, en définitive. Et en allant sur les réseaux sociaux, grâce au mécanisme lui-même des réseaux sociaux, ce qu'on appelle des algorithmes de recommandation, ce qu'on appelle aussi des bulles de filtre, vous vous retrouvez assez vite noyé dans toute une série de personnes qui pensent comme vous, exactement comme vous, qui ont les mêmes idées que vous et avec qui vous pouvez échanger. Et là, comme vous êtes anonyme, vous pouvez vous fondre dans ce groupe qui, à ce moment-là, alors il faut liker, si vous voulez. Quand des idées apparaissent qui ressemblent aux vôtres, il faut que vous envoyiez des likes, et vous-même, vous émettez aussi des idées pour lesquelles les gens vous likent.
Vous expliquez qu'une certaine violence est admise, d'ailleurs. Donc,
Tout à fait. Et donc, et même c'est un jeu social, si vous voulez. La violence verbale devient un jeu social.
Oui, vous dites que ça marque la proximité sociale entre les membres du groupe.
Exactement. Il y a un moment où ce jeu social, si vous voulez, peut faire boule de neige, en définitive, et se centrer sur un bouc émissaire. Là encore, cette histoire du bouc émissaire, parce que quand on parle de la haine, on est obligé de parler beaucoup du bouc émissaire. C'est un mécanisme qui est vraiment à la base, en définitive. Et ce bouc émissaire, on l'a vu par exemple dans l'affaire Mila, hein, qui a été désigné comme bouc émissaire par des millions, on est arrivé à des millions, hein, des millions de laïcs, eh bien, à ce moment-là, cette personne est finalement lynchée sur les réseaux sociaux et elle est obligée de fuir. Mila, en l'occurrence, n'a plus pu aller dans son lycée, c'était impossible. Elle aurait pu se faire tabasser pour de bon, enfin, si ce n'est mettre en péril sa vie. Et donc, il a fallu que les autorités l'excluent et lui trouvent un nouveau lycée anonyme. Et donc, si vous voulez, il y a cet effet de destruction de l'autre, soit par la cancellisation, donc la destruction finalement de la personne sur le plan social, mais aussi d'un véritable lynchage.
Je souhaiterais, docteur Appeldorfer, qu'on dise un mot sur le terrorisme.
Ah ben oui. Alors justement, si vous voulez, on passe... je n'ai pas tellement parlé des haines ordinaires, si vous voulez, hein, mais on ne peut pas parler de
on
tout.
On n'a pas le temps, votre ouvrage
absolument,
est un ouvrage
oui,
très, très
voilà.
riche. Nicolas prolongera la discussion.
Alors il y a les haines ordinaires qui nous concernent tous, et nous pouvons... qui nous permettent, en fait, de faire l'expérience de la haine par nous-mêmes. Et puis, il y a les haines qui touchent d'autres personnes qui sont un petit peu différentes. Et ces personnes-là peuvent aller jusqu'au terrorisme. Alors, finalement, comment est-ce qu'on devient terroriste? Eh bien, ça a été longuement étudié. Et les sociologues se sont longuement penchés sur... comment on devenait terroriste. Alors, il y a des premières théories qui expliquent que, finalement, pour faire un bon terroriste, il fallait, c'est la théorie 3N d'un sociologue qui s'appelle Klujanski, il fallait un need, narrative and network. En français, ça donne un besoin, une narration, et un soutien social.
Vous dites qu'il faut un bon narratif qui donne du sens, qui justifie la haine, la violence et même la glorifie.
Exactement. Et ce narratif va varier selon votre culture. Il est évident, ce qui va déclencher la haine et la violence chez un Indien, par exemple, ne sera pas du tout la même chose que ce qui va déclencher la haine chez, disons, une personne qui est... un maghrébin de deuxième génération en France, quelqu'un qui est né en France français, mais dont les parents sont des immigrés.
Vous dites ce narratif aide à amoindrir, voire supprimer toute empathie, toute culpabilité en fait.
Voilà. Alors c'est l'intérêt de la haine. Mais il faut aussi quand même pouvoir remarquer que il y a d'autres choses, si vous voulez, qui peuvent faciliter finalement l'apparition de la haine en définitive, hein. La fragilité en particulier des individus qui ont été, ce que je disais un petit peu pour la haine en ligne, c'est-à-dire qui ont été fragilisés dans leur enfance, qui n'ont pas reçu suffisamment d'amour, qui en fait ont été dans des familles extrêmement rigides par exemple, ou des familles dissociées, et qui, en fait, se sont constitués autour de la haine à ce moment-là.
Hein? Voilà, on reprend donc notre discussion après une courte pause et on reviendra sur toutes ces façons de haïr dans la deuxième partie de notre émission.
Radio J.
C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Raffal.
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
À demain.
Radio J.
Radio J.
C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Raffal. Radio J.
De retour pour cette deuxième partie de notre rendez-vous, votre rendez-vous santé, avec le docteur Gérard Appeldorfer, psychiatre, psychothérapeute et auteur, voilà, de votre petit dernier « Pourquoi tant de haine ? Psychologie du ressentiment, de la colère et de la violence » paru chez Odile Jacob. Est-ce qu'on peut dater la naissance de la haine, il y a moins 10 000, moins 12 000 ans, on sait que les hommes ont commencé à cloisonner, à faire de l'agriculture, c'est la naissance des villes, c'est la naissance donc du troc. Est-ce que Homo sapiens, puisque nous sommes des Homo sapiens, et il y a moins 12 000, c'était déjà des Homo sapiens, est-ce qu'on peut dater la haine de l'empoisonnement, de la naissance de l'agriculture, de la naissance de la monnaie, ou est-ce que c'était dans les gènes bien avant cela?
Oui, alors voilà, il y a les deux théories, en définitive. Il y a la théorie génétique qui est portée essentiellement par les psychologues évolutionnistes, à laquelle j'adhère quand même pas mal. Je pense que la haine est innée chez nous, comme elle l'est chez les chimpanzés. Donc, c'est quelque chose qui est constitutif de notre être. Et puis,
Mais quand même, dans votre livre, docteur Apfeldorfer, vous dites les gènes proposent, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui disposent. L'environnement, la famille, les facteurs sociaux, l'histoire personnelle.
C'est vrai aussi, mais c'est aussi la façon de haïr, je dirais, qui change, si vous voulez, mais pas la haine proprement dite. Et puis, il y a d'autres théories, effectivement, et en particulier des théories féministes qui ont proposé cette explication-là, que dans les temps préhistoriques, il y aurait eu des sociétés qui auraient été essentiellement matriarcales et qui n'auraient pas été des sociétés haineuses. Et que la haine est apparue à partir du moment où c'est le patriarcat qui s'est installé. Et ce patriarcat s'est installé à partir du moment où on a commencé l'agriculture. Parce que l'agriculture, qui dit agriculture, dit possession des terres, dit quelque chose à posséder.
Sédentarité.
Voilà, sédentarité. Et à partir de ce moment-là, il a fallu avoir des structures qui disciplinaient l'envie et le désir et la jalousie des gens. Donc la haine est apparue à partir de ce moment-là. Mais en fait, il faut quand même bien dire que cette théorie de société matriarcale finalement extrêmement sympathique qui ressemblait peut-être à un kibbutz en Israël finalement, c'est à peu près la description qu'elles en font, est tout à fait contestée par les anthropologues aujourd'hui. On pense que ça ne correspond pas du tout à la réalité et que cette division entre par exemple Françoise Héritier, qui est une anthropologue qui était féministe elle aussi, a bien montré que dans les sociétés primitives, il y avait déjà cette division entre les hommes et les femmes, les hommes au pouvoir. Les hommes ont voulu toujours contrôler les femmes du fait que les femmes avaient un avantage sur les hommes. Elles étaient capables d'engendrer, ce que l'homme n'est pas capable de faire, et elles arrivaient à engendrer du même, c'est-à-dire des filles, et puis du différent, c'est-à-dire des garçons. Elles avaient un avantage fondamental. Et les hommes ont voulu toujours prendre le contrôle de ces événements, ne serait-ce que pour finalement avoir cette sécurité que leurs enfants seraient d'eux en définitive.
Alors, il faudrait, vous le dites dans votre ouvrage, il faudrait rétablir des relations basées sur la confiance. On va parler là des rapports entre les hommes et les femmes. Vous expliquez que cette revendication des femmes à l'égalité, la lutte contre les violences sexuelles, ont conduit à cette, vous l'avez dit en première partie, à une triste situation. Selon un sondage IFOP de septembre 2024, 76% des Français ont eu un rapport au cours des 12 derniers mois, soit une baisse de 15% depuis 2006. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette éthologie finalement de la relation homme-femme un peu une explication de cette érosion aussi de la confiance entre les deux sexes?
Oui, alors il faut comprendre comment les choses se sont passées. Les femmes ont été victimes depuis que le patriarcat existe et il semble bien qu'il existe depuis le début des temps pour les êtres humains, depuis ce temps-là, elles ont été victimes d'une injustice systémique. Hein. Donc, elles ont été brimées. Et là, le mouvement féministe, à partir du XVIIIe siècle, qui s'est développé beaucoup, en particulier ces dernières décennies, a été une revendication légitime. Comme tout mouvement revendicatif, on a souvent l'habitude d'aller beaucoup trop loin dans ces revendications. Et je crois que c'est plutôt ça qui s'est passé. Donc les femmes ont voulu l'égalité et cette égalité on est arrivé à déconsidérer la gent masculine et finalement à déconsidérer, par exemple, la séduction, la capacité de se séduire mutuellement et finalement d'avoir des rapports sexuels équilibrés. Donc on est arrivé à finalement une complexité. Il fallait maintenant ce qu'on
vous dites à chacune des étapes quasiment voilà. Il faudrait obtenir l'accord.
C'est ça. Il faut maintenant quand vous voulez séduire une femme, il faut venir avec son avocat. Donc ça devient quelque chose d'impossible. Et de ce fait-là, les jeunes hommes sont arrivés à se désintéresser de la séduction, à trouver que c'était trop compliqué, à trouver que les femmes en demandaient trop. Et finalement, s'ils avaient le choix entre regarder un bon film sur Netflix...
Près de la moitié des moins de 35 ans vivant en couple reconnaissent avoir évité un rapport pour regarder une série, un film, un jeu vidéo.
Exactement.
Donc on ne peut plus, dans cette société d'aujourd'hui, quel est l'œil du psychiatre, on ne peut plus dire la fameuse phrase de Pierre Dac, quand un homme ouvre la porte à une de la voiture, la portière de la voiture à une femme, c'est que l'une des deux est neuve. Ça, on pourrait plus dire ça aujourd'hui, on passerait pour un horrible misogyne, sexiste.
Les blagues sexistes sont maintenant tout à fait interdites. Et d'ailleurs, je dirais même, on peut aller plus loin, parce que je parle aussi du rire dans mon livre, les blagues tout court sont interdites. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se moquer de personne.
Ne rions plus.
Non, la seule personne dont on peut se moquer, c'est soi-même. Et il faut bien dire que les rires sont limités, parce que personnellement, je me trouve un certain nombre de défauts, mais un certain nombre de défauts limités. Donc je peux faire rire sur deux ou trois défauts. Alors que si j'ai la possibilité de faire rire sur les autres, là j'ai une infinité de défauts et un bien plus grand champ.
Quel est l'œil du psychiatre alors avec vos années de pratique, votre expérience sur ce qu'il faut faire, le rétablissement de cette confiance entre les deux sexes selon
absolument.
Vous
absolument, moi je pense qu'il faut rétablir la séduction, il faut rétablir la capacité de la séduction. Et pour rétablir la capacité de la séduction, effectivement, il faut rétablir la confiance. Donc, des gentlemen par exemple, le gentleman, c'est un homme qui sait prendre en considération, qui a de l'empathie pour la femme, si vous voulez, et donc qui va la préserver de toute attaque et lui faire comprendre à quel point il l'apprécie. Il y a une blague que je peux peut-être vous rapporter. Un monsieur rentre dans une pièce et tombe sur une femme nue. Et là, il ferme tout de suite la porte en sortant. En sortant, il dit « Excusez-moi, monsieur.
» Puisque le sous-titre de votre ouvrage, Pourquoi tant de haine, psychologie du ressentiment, de la colère et de la violence, est-ce que vous en avez constaté beaucoup plus qu'au début de votre pratique dans votre cabinet, de la colère, de la violence, du ressentiment?
Non, je dirais pas ça. Je dirais qu'il y a une sorte d'égalité que je vois toujours autant de haine chez mes patients, toujours autant de désir de vengeance, de revendication, d'envie, c'est quelque chose qui me paraît assez constant.
Vous l'écrivez bien, docteur Appeldorfer, vous dites on ne consulte pas parce qu'on est, mais en raison de ce que la haine nous fait et nous fait faire.
Exactement, et les gens qui consultent un psychiatre ne consultent pas en arrivant en disant je suis haineux, j'aimerais que ça s'arrête. Si vous voulez, c'est pas la haine qui est identifiée, c'est la violence. La haine, en fait, en réalité, ne pose pas de problème. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la haine nous est constitutive. Si on considère que la haine est à bannir, à ce moment-là, on ne peut pas s'en sortir. On va se retrouver dans une sorte de piège. Non, en fait, ce qui est le problème, c'est le passage de la haine à la violence. C'est ça qui pose problème. Donc, il faut pouvoir avoir une haine qui soit beaucoup moins violente, voire pas violente du tout. Et qui permette une haine qui va permettre en fait
c'est un agrégant social quoi. C'est vrai que la haine elle permet aux haineux ou aux gens ou aux personnes de se regrouper, de médire à propos d'un autre, et donc elle forme une constitution, elle est constitutive d'un certain lien social, c'est ce que vous dites.
Alors effectivement c'est ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux si vous voulez, mais disons que on ne peut pas contrôler, d'une façon très générale, ses émotions, ses sentiments. On ne peut pas non plus contrôler les pensées qui nous passent par la tête. Elles nous viennent et on n'y peut rien. Par contre, ce que l'on peut contrôler, ce sont ses comportements, c'est-à-dire ce passage de la haine à la violence. Et c'est là-dessus que le psychiatre peut aider, si vous voulez, et qui peut permettre aux gens de travailler. Alors quand j'ai des personnes qui viennent me consulter, est-ce qu'elles souffrent de la haine? Elles souffrent de quoi, finalement? Elles souffrent des conséquences de leur haine. Hein, cette haine qu'elles manifestent dans leur couple va détruire leur couple. Elle va leur poser des problèmes dans leur vie professionnelle, parce qu'ils se mettent en colère, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Et donc, à ce moment-là, ils viennent me voir en me disant « Je suis en danger, si je continue comme ça, je vais perdre mon travail, je vais perdre mon couple, etc. Hein ». Donc, ils viennent avec cette demande-là. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est les faire travailler, d'abord identifier le problème. Identifier, par exemple, leurs émotions, la colère, par exemple. On peut travailler sur la colère. On peut faire en sorte, on peut pas empêcher la colère d'arriver, mais on peut faire en sorte que cette colère soit neutralisée dans ses effets. Par exemple, je fais faire à mes patients des exercices de colère, c'est-à-dire, par exemple, dans un état de relaxation ou de pleine conscience, je leur demande d'imaginer des situations qui les mettent en colère. Donc, le patient sent en lui la colère monter. Le cœur bat plus vite, la respiration se fait plus haletante. Donc je lui demande d'identifier tout ce qui est en train de se passer là, et je lui dis ensuite de revenir simplement sur sa respiration, et sans rien faire de plus, les choses retombent et se calment. Et puis après on recommence une fois, deux fois, trois fois, dix fois, autant que nécessaire pour qu'il se rende compte que la colère sa colère peut s'évaporer sans qu'il ait besoin de passer à l'acte. Donc la violence n'est pas nécessaire. Mmh. Et donc, bien évidemment, je le fais aussi travailler sur cette violence, si vous voulez. Hein. Donc, tout ce qui peut... par exemple, on peut travailler sur les pensées qui déclenchent la violence. On s'aperçoit que les personnes haineuses ont toujours ce qu'on appelle des pensées automatiques qui sont toujours un peu les mêmes. Mmh. Hein, qui sont toujours sur le mode de il faut, je dois. Hein. Il faut que je fasse ci, je ne dois pas faire ça, etc. Et je dois prouver ma force, par exemple. Mmh. Parce que sinon, on ne va pas me respecter. Les autres doivent voir mes besoins. Les autres doivent me comprendre automatiquement. Et donc, du coup, céder à ce que je demande. Ce genre de pensée.
Donc le travail du psychiatre, c'est d'essayer de déboulonner un peu les automatismes de pensée.
Exactement.
Chez ces personnes.
Déboulonner, on peut le dire comme ça. Ouais. De faire en sorte, si vous voulez, de décrocher de ces pensées. On ne fait pas que ces pensées n'existent plus, on fait en sorte que ces pensées n'aient plus de conséquences. C'est ça qu'on arrive à faire.
C'est remarquablement démontré, ça va intéresser le psychiatre que vous êtes, dans une série qui passe sur Arte, à voir absolument, qui s'appelle Querer. C'est un mot en espagnol. Querer sur un mari qui use d'une violence et sa femme décide, au bout de 30 ans, un jour, elle part. Au bout de 30 ans, c'est-à-dire que les 30 années qu'elle a passées avec lui ont été des années expérimentées, des années tues, des années bafouées. Et un jour, elle ouvre la porte et elle part. Et lui, il comprend absolument pas, il se remet absolument pas en question. Les enfants lui font la tête. Il y en a un des deux, puisqu'ils sont deux enfants, deux gamins, deux fils. Un qui prend parti pour elle, l'autre qui ne lui adresse plus la parole et qui finalement lui adressera la parole. Enfin, c'est une série d'une précision à regarder en 4 épisodes sur Arte TV, Querer, sur un mari qui use d'une violence. Ouais, Serge.
On était dans la violence indirecte tout à l'heure, on l'a parlé. La femme peut être dans la violence directe. Jacqueline Sauvage, ouais, qui supporte la violence et qui brutalement...
Absolument, et ça c'est aussi caractéristique finalement de la violence féminine. C'est-à-dire qu'il y a cette violence sociale qui est la violence habituelle chez les femmes. Et puis, de temps à autre, c'est une violence directe. Et cette violence directe est, à ce moment-là, vraiment dans un système tout ou rien. C'est-à-dire que, justement, cette femme n'a rien fait, n'a rien dit pendant 30 ans à encaisser les coups. Et puis, un beau jour, à ce moment-là, eh bien, elle décide...
Mettre un terme. Du un beau jour. Pourquoi au bout de 30 années dans cette série Querer, cela arrive? Pourquoi Jacqueline Sauvage arrivé au bout de X années de...
Eh bien, c'est généralement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moi, j'ai eu une patiente comme ça
Peut-être le vase qui a fait déborder la goutte d'eau aussi.
J'ai eu une patiente comme ça une fois que j'ai vue à sa sortie de prison et qui avait tué son mari exactement avec ce genre d'histoire-là. C'est-à-dire... Pendant 20 ans ou 30 ans, elle a accepté les coups. Et puis un beau jour, elle a dit, c'est fini, j'accepte plus. Et je crois, je sais plus très bien ce que son mari a fait. Donc elle a pris le fusil de chasse de son mari et elle l'a braqué sur son mari et lui a dit, si tu n'arrêtes pas de me taper, eh bien je te tue. Et son mari lui a répondu, tu m'embêtes, laisse-moi lire le journal.
Ouais, c'est ça, tu m'intéresses.
Elle l'a tué, elle est allée en prison, elle a fait 10 ans de prison, je la vois sa sortie, et là, elle m'explique que ces 10 ans de prison ont été les années les plus heureuses de sa vie.
Ouais, parce qu'elle était enfin dans le calme et seule avec...
Et elle s'est fait des copines.
Bon, écoutez, ce serait violence quand même que de ne pas faire intervenir le docteur Vladimir Mitz, qui est rentré dans le studio depuis un petit moment, et avec lequel on va parler également eh bien, du thème du jour. Petit jingle.
Radio J.
C'est bon pour la santé. Le Mag, Serge et Nicolas Raffal.
Alors, Vladimir, bonjour.
Bonjour,
tout d'abord,
chers amis.
Puisqu'on parle de haine et de violence, on sait que dans certains pays, on coupe encore la main des voleurs. Des rumeurs se font parfois entendre qui nous expliquent que des chirurgiens sont présents pour recoudre le membre sectionné. C'est possible ou on est vraiment dans du fake, là?
Non, on est vraiment dans du fake. Parce que quand on décide de couper la main de quelqu'un pour le punir, on va pas le récompenser. Par contre, ma rencontre avec la violence extrême et la haine, au-delà des années où j'étais, où je faisais de la microchirurgie dans l'équipe SOS Main du professeur Raymond Villain à Boussicault, et où nous avions, du fait de notre particulière compétence à réparer des membres déchiquetés, où il fallait à la fois réparer des vaisseaux, réparer les os, rassembler la peau pour pouvoir faire de la couverture, eh bien, nous avions été ceux qui recevions de prime abord tous les traumatisés à cause des attentats et des accidents. Et donc la rencontre avec ces patients qui ont été victimes d'une haine aveugle, puisqu'ils ne savaient pas qui les avait portés survivants dans des conditions très difficiles, ça a été des années où j'ai bien enrichi mes connaissances psychologiques par rapport à ces personnes qui sont dans une souffrance qui est permanente. Et qu'est-ce de quoi on se rendait compte? Ceux qui avaient survécu, bon bien sûr ils étaient très contents d'avoir survécu, mais tout de suite, ils avaient la haine de ceux qui les avaient assassinés. Ils voulaient absolument savoir qui c'était. Et ce qui m'a étonné, c'est que pendant toutes ces années jusqu'à maintenant, ce sont des personnes qui n'ont pas oublié cette haine qu'ils vouent à ceux qui ont causé leurs dégâts. Ils créent des associations, ils essayent de se retrouver. Et cela me rappelle un peu ce que faisaient les chasseurs de nazis pendant toutes ces années, qui, à la suite de ces massacres, n'ont jamais voulu pardonner. Et Raymond Villain, qui était un homme exceptionnel, comme vous le savez, a beaucoup développé le thème du pardon. C'est-à-dire que la haine qu'on voue à l'autre, à un moment donné, ne peut être éteinte que s'il y a un pardon. C'est-à-dire s'ils se sont dit, bon, ok, j'arrête, je change de braquet, je change de ville, de trottoir. Eh bien, ces personnes-là n'ont jamais pardonné. Et donc, pour nous, c'était important de faire en sorte que nous leur apportions des solutions à chaque étape, parce que les opérations qu'il fallait faire chez eux étaient multiples, répétitives. Ceux qui étaient amputés gardaient des douleurs en permanence. Ce sont eux ou elles qui ont des membres fantômes, parce que ce fantôme est le synonyme, le contraire, je dirais le versant négatif de la haine qui est positif. Et cette haine qui les anime a des formes parfois très très étranges, parce que quand ils se réunissent entre eux, c'est un peu comme si à un moment donné, ce groupe que vous avez décrit pour le groupe MeToo leur apportait une joie de vivre, une possibilité de se retrouver et de se reconnaître. Bref, ce que je voulais dire, c'est que cette haine que nous, en tant que médecins et chirurgiens, nous avons expérimentée est d'une telle violence qu'elle ne peut s'éteindre qu'avec un pardon, et ce pardon n'arrive jamais. Et je voulais savoir si dans votre expérience, ce thème du pardon a une quelconque valeur? Est-ce que ça a une valeur pour vous en tant que thérapeute? Est-ce que c'est un pardon qui est d'ordre religieux? D'où ça vient cette capacité de pardon?
J'ai un peu de mal à vous répondre parce que j'aime pas trop finalement poser ces problèmes-là, ce problème de la haine et de la fin de la haine en termes de pardon, si vous voulez. Je pense que le pardon n'est pas indispensable. Si on pardonne, oui, c'est très bien. Et si on pardonne pas, ça n'est pas non plus catastrophique. On peut vivre avec sa haine. On peut considérer que cette haine est motrice et même nous permet de tourner les pages aussi, si vous voulez. J'avais une patiente comme ça qui avait subi aussi des choses absolument épouvantables, un traumatisme, des traumatismes très importants, et qui finalement, on avait fait cette thérapie, elle avait bien marché, et je lui pose comme question, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Est-ce que vous voulez porter plainte? Est-ce que vous voulez combattre celui qui vous a fait du tort, qui vous a violé, qui vous a détruite finalement? Ou bien, est-ce que vous voulez tourner la page? Et elle me dit, non mais moi, finalement, poursuivre cette personne ne m'intéresse pas. Ce dont je me rends compte, finalement, c'est que moi, il faut que je poursuive mon chemin et que je montre finalement à cette personne qu'elle ne m'a pas détruite. Et finalement, cette idée de montrer à cette personne qu'elle ne m'a pas détruite, finalement, c'était sa forme de haine qui lui a permis finalement de progresser et de s'en sortir. Donc, vous voyez, finalement, la haine, on peut lui donner la haine est plastique, comme l'amour est plastique. Et finalement, on peut lui donner des formes différentes, et certaines formes différentes peuvent être positives.
Qu'en est-il du syndrome de Stockholm?
Ah, le syndrome de Stockholm, ça aussi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, je ne sais pas pourquoi vous évoquez le syndrome de Stockholm alors qu'on est en train de parler de la haine.
Parce que la haine peut, à un moment donné, se transformer aussi
bien dans le micro,
sentiment, dans un sentiment de respect, presque d'amour de celui qui vous a fait du mal.
Dans ce sens-là. Alors, effectivement, alors je pense que ça montre bien l'ambivalence qu'il y a entre la haine et l'amour. Et c'est d'une façon très générale.
Elles sont complémentaires.
Voilà, et elles sont complémentaires. On a besoin des deux. Et on passe de l'un à l'autre extrêmement facilement. Il y a beaucoup de gens qui, on voit bien ça dans les couples en particulier, et les avocats en font l'expérience tous les jours, ce sont les couples qui se sont le plus aimés, qui se sont le plus adorés, et qui ont les divorces les plus sanglants. Donc quand ça bascule, ça peut basculer de l'amour à la haine, mais ça peut aussi basculer de la haine à l'amour. On voit ça aussi, des gens qui se sont détestés dans un premier mouvement, eh bien, il y a un moment, on ne sait pas très bien pourquoi, ça bascule et ça devient de l'amour. Et là aussi, ça va devenir un amour qui est aussi fort que la haine précédente.
Il y a cet exemple très célèbre sur le refus d'un pardon. C'est deux personnes victimes de la Shoah, Simone Veil et Georges Samprin. Simone Veil a dit « Je ne pourrai absolument jamais pardonner, jamais. C'est quelque chose qui n'existe pas. » Donc ça. C'est une chose qui lui a appartenu tout au long de son parcours et de sa vie. Et Georges Samprin, dans l'écriture ou la vie, dit « Je pardonne à mes bourreaux ». Il le dit vraiment, c'est écrit noir sur blanc dans l'écriture ou la vie. Donc il faut choisir sa voie, tout simplement, entre les deux. Soit celle d'une haine ad vitam, soit celle peut-être d'une éclaircie, d'un pardon, et puis de savoir... ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, de savoir écouter aussi l'autre, les propositions que peut faire l'autre, le patient, la victime, le bourreau, c'est important.
Bien sûr, ça c'est le travail du psychiatre, si vous voulez, de pouvoir aider quelqu'un à s'en sortir, à se sortir de ses problèmes à sa façon, je dirais, et à ne pas la lui imposer.
Eh ben écoutez, c'est la quasi presque fin, c'est la fin de cette émission. Alors comment parler de la haine? Vous n'aurez pas ma haine pendant 48 minutes, c'est impossible puisque vous avez dit Gérard Apfeldorfer qu'elle était presque innée, inhérente, constitutive. Voilà, chez nous les Homo sapiens. En tout cas, c'est ce que vous racontez dans ce livre. Pourquoi tant de haine, paru chez Odile Jacob. Homo sapiens est haineux par nature, par construction, par nécessité. Il rejette ceux qui se mettent en travers de son chemin. Il nous faut marier intelligemment amour et haine, attachement et exclusion. Nous sommes avant tout des animaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous pour nous accompagner dans cette émission.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu.
Et merci d'être venu nous apporter cet amour de la parole. C'était fort agréable. Merci Vladimir Mitz, que j'aime beaucoup. Merci Serge Raffal, que j'aime. Et merci Benjamin Arnault, que j'adore. Voilà, à la réalisation. À très bientôt, à la semaine prochaine, pour un nouveau numéro de C'est bon pour la santé.
Radio J.
C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Raffal. Radio J.
Radio J, 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen.
Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi pour le moment culture de Radio J autour d'une personnalité.
Il y a une énergie qui se crée par l'amour du public.
Je pense qu'elle dirait quelque chose un petit peu éthéré comme ça.
En direct de 15h à 16h sur Radio J.
Israël, c'est quoi? C'est le corps des Juifs.
Radio J. Montez le son.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
במטוס סילון לארצות הברית, רק עם דיילת וענן, שתי דקות לנחות, שתי דקות להמריא, ובין שני אלה יש עוד זמן. אז אני פונה לפתע לדיילת ואומר לה, יש לי שאלה אחת להעביר, אם אפשר לחיות למטה כאילו זה למעלה, הרי היא ציפור שחיה באוויר. שתי עיניה מחייכות, שאלה של השקפה, אם חיים יותר נכון אז לא משנה איפה. במטוס סילון בשיחה מקרית, רק עם דיילת וענן, שתי דקות לנחות, שתי דקות להמריא, באמצע מפזר שינה, ונדם פשוט לקראתה, נחיתה היא למטה, מהרהר קצת בדבריה אם נכון, שאפשר לחיות למעלה כאילו זה למטה, אז למה חגורות הביטחון? שני עיניה מרגיעות, שאלה של השקפה, הקפה יגיע עוד מעט, עוד מעט, אז אל תבחר. קצר דרכים ובשיחה להאריך, שתי דקות לנחות, שתי דקות להמריא, הדיילת מוסיפה דברים, אם אתה עובר את הלילה הסימן שכבר עברת את מרחק הלב מן המחר, וחיית קצת למעלה, וחיית קצת למטה, העיקר חיית כי בסוף תנחת. אני מביט בה ומחייך, שאלה של השקפה, עכשיו אני יודע הציפור במעופה, לה 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 ל
עשר דרכים רק עם דיילת וענש.
Montez le son.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
על הדבש ועל העוקץ, על המר ועל הטוב, על בינינו התינוקת שמורני הטוב, על האש המבורר, על המים הזקים,
על הבכי ועל זה